Formation biblique de disciples, cours numéro 13, la prière, section 3. Prière de remerciement, rendre grâce, prière en chant, prière en langue, requête de prière, prier la parole de Dieu, parcours de prière. Première partie, prière de remerciement, rendre grâce. 1 Chronique 29, versets 10 à 13 et verset 20. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. » Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le secret de David, c'est que David était un homme qui avait une vie remplie en permanence de gratitude envers Dieu. Il existe des secrets de bonté que Dieu ne nous révèle pas si nous ne frappons pas à la porte du ciel par des actions de grâce. Le remerciement n'est pas un genre de religion, mais c'est un cœur qui est convaincu des bontés illimitées de Dieu en toute situation et qui se traduit par des paroles de louange et d'adoration envers Dieu pour lui rendre la gloire qui lui revient. Remerciez Dieu sur toute chose, car tout ce que Dieu a fait est bon. Nous avons une vie de remerciement. Si nous avons une vie de remerciement, tout ce qui peut nous sembler mauvais, Dieu le transforme en bénédiction et grâce. C'est par le remerciement que Dieu a multiplié les 5 pains et les 2 poissons par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ceci pour nourrir les 5 000 personnes. Cela signifie que derrière les remerciements envers Dieu, il y a toujours plénitude et croissance. Lazare a été ressuscité par un remerciement que Jésus a adressé à Dieu. Quand Moïse a remercié Dieu lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge. Ainsi Dieu a réservé aux Israélites la manne dans le désert pendant 40 ans. Exode 15, versets 11 à 15. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Les Israélites louaient déjà Dieu à l'avance de ce qu'il allait réaliser. Les Israélites n'ont même pas vu encore la terre promise, que déjà ils louaient et rendaient grâce à Dieu. Ceci est la preuve que le remerciement est d'une part une gratitude envers Dieu sur ce qui est déjà arrivé et d'autre part sur ce qui va encore se passer à l'avenir. Nombreux sont les chrétiens qui se trouvent sans issue devant n'importe quel type de situation. S'ils doivent remercier Dieu sur ce qui se passe, ils perdent leur temps à murmurer à longueur de journée. Ainsi, s'ils doivent être des vainqueurs en toute situation, ils deviennent des vaincus car ils perdent leur temps à donner tort à Dieu sur ce qui leur arrive. La prière que Dieu demande donc est une prière de remerciement à son égard avant même qu'il n'intervienne avec son pouvoir illimité dans notre vie. Jésus dit que quand vous priez, remerciez Dieu et faites comme si vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Ainsi, quelle que soit votre demande à Dieu, remerciez-le déjà à l'avance sur ce qu'il va faire pour vous. Une vie de remerciement est non seulement un chemin pour que s'accomplisse ce que Dieu a prévu de faire, mais aussi une gratitude sur ce qu'il a déjà fait auparavant dans notre vie. Les chrétiens devraient donc avoir constamment une vie de remerciement envers Dieu, car on croit que rien n'est impossible pour Dieu et qu'il peut tout faire dans notre vie. Remerciez Dieu sans cesse en tout temps et en toute chose, car ce que nous n'avons pas imaginé au-delà de toutes nos pensées, il va le faire pour chacun de nous. Jésus n'avait pas eu peur une seule seconde devant Lazare qui était mort depuis 4 jours. Il a juste eu la fermeté de croire et de remercier Dieu de ce qu'il va faire par la suite. Jésus n'avait donc aucune hésitation devant la situation. Cette attitude a fait qu'il avait la paix du cœur malgré la situation. Il croyait également de tout son cœur que Dieu allait répondre à sa requête, car il avait une communion permanente avec Dieu. Jésus avait une communion et non une relation avec Dieu. Communion, c'est connaître Dieu intimement sur ce qu'il est capable de faire et de croire fermement dans son cœur, son intervention et sa main bienveillante dans toute situation qui peut se produire dans notre vie. Si nous avons en nous cette pleine confiance à Dieu et dans notre esprit, notre soif de le chercher, alors Dieu interviendra dans notre vie au-delà même de ce que nous aurions pu imaginer. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Toutes circonstances signifient les bonnes et les mauvaises. Telle est pour vous la volonté de Dieu dans votre union avec Jésus-Christ. Comment Dieu peut-il nous demander de le remercier quand ça ne va pas bien dans nos vies? Quand nous avons de la peine et de la souffrance, par exemple, quand nous sommes malades ou sans emploi? Comment? La Bible nous en donne la raison. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30, nous lisons « Nous savons en outre que Dieu a fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelé, il les a aussi déclarés justes, et ce qu'il a déclaré juste, il les a aussi conduits à la gloire. La raison pour laquelle nous devons remercier Dieu pour toutes circonstances, bonnes et mauvaises, est que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien éternel. Grâce à Dieu, tout ce que nous vivons en étant unis avec Jésus-Christ est utilisé par Dieu pour nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur et nous devenons de plus en plus comme Jésus son Fils. Dieu nous a destinés à cela, il nous a appelés à lui. Il nous a déclarés justes devant lui et il nous a conduits à la gloire de Jésus, son Fils unique. Si nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi, alors Dieu le Père voit son Fils bien-aimé en nous. Il nous aime comme il aime son Fils unique, Jésus-Christ. Il répond à nos prières quand nous prions unis à Jésus, soumis à sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour nous, pour notre bien éternel. Voilà pourquoi nous devons remercier Dieu en toutes circonstances, car telle est pour nous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Pour être clair et précis, nous ne remercions pas Dieu parce que nous souffrons et que ça fait mal, mais parce que Dieu est en contrôle de toutes choses et qu'il peut faire tourner le mal en bien, il peut prendre notre malheur et le tourner en bonheur éternel pour nous et même pour faire du bien aux autres autour de nous. Et notre bonheur éternel, c'est de devenir comme Jésus-Christ qui un jour reviendra dans la gloire et règnera pour toujours. Alors notre joie sera parfaite. Deuxième partie, prière en chant. Chanter, est-ce prier deux fois? Il existe des phrases ou des expressions si communes et si célèbres au milieu des croyants depuis tellement longtemps que beaucoup d'entre nous ont été, à tort, amenés à croire qu'il s'agissait de passages bibliques. Ces expressions souvent très élégantes reprennent à leur façon certains principes bibliques et certaines valeurs chrétiennes au point qu'elles sonnent comme des paroles d'évangile, comme des déclarations divines ou des affirmations du Christ lui-même. L'une des plus connues de ces expressions est celle qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. En réalité, cette locution n'existe nulle part dans la Bible, mais elle semble si pieuse qu'elle apparaît comme telle. Pour notre étude, nous nous limiterons à l'affirmation bien connue selon laquelle chanter, c'est prier deux fois. Quelle est l'origine de cette expression? Qui en est l'auteur et que signifie-t-elle réellement? Petit 1, origine et signification. À l'ère du numérique et des nouvelles technologies, il est très facile de vérifier si une expression est biblique ou non. Il suffit d'effectuer la demande dans un moteur de recherche public numérique pour Bible numérique et le tour est joué. Pour le cas qui nous concerne, et vous pouvez vérifier vous-même, l'affirmation louer c'est prier deux fois n'est pas biblique du tout. Cette expression est devenue célèbre sans doute parce que son auteur l'était. Il s'agit de saint Augustin, philosophe, auteur et brillant penseur chrétien du 5e siècle après Jésus-Christ, connu pour être un fervent défenseur de l'Église et de la foi chrétienne. D'ailleurs, l'expression d'origine dit plutôt qui chante bien, deux fois prie. Par cette déclaration, saint Augustin voulait inciter les croyants à ne pas délaisser leurs cantiques et leurs chants chrétiens, mais à les mêler à leurs moments de prière personnelle ou communautaire. Petit 2, expression mal comprise. Il est plus qu'étonnant de se rendre compte que le sens d'origine de cette expression de saint Augustin a été écorché. Utilisée par son auteur pour suggérer le chant comme appui à la dévotion de la prière, l'expression est malheureusement devenue la meilleure excuse de ceux qui savent chanter pour ne pas prier. Elle est aujourd'hui comprise non pas comme une suggestion du chant comme appui à la prière, mais plutôt comme un palliatif, une substitution, un remplacement à la prière. Or, rien ne peut se substituer à la prière. Comme j'aime à le dire, si la parole de Dieu est la nourriture du croyant, la prière est sa respiration. Si Jésus a prié toute sa vie durant, qui est le croyant ou le chantre pour ne pas prier? En effet, il est écrit en Hébreux 5, versets 7 et 8, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus, en dépit de son statut, a prié. Alors le fait de savoir chanter t'a conféré quel statut plus grand que celui du Christ pour que tu ne pries pas? Jésus lui-même chantait, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir une vie de prière redoutable. La nuit de son arrestation, la Bible précise que le Seigneur et ses disciples ont chanté les cantiques avant de se rendre au mont des Oliviers, où il fut plus tard arrêté. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Là-bas, sur la montagne, Jésus n'a pas manqué de prier au motif qu'il venait juste de passer de forts moments d'adoration en compagnie des disciples. Au contraire, il pria comme jamais au cours de sa vie, au point que sa sueur devint comme du sang. Voir Luc 22, verset 44. Le chant peut aider ceux qui ne savent pas prier à le faire, car il a l'avantage d'avoir des phrases déjà bien conçues. L'air d'un chant peut aussi être un facilitateur à la concentration pour la prière. Mais le chant ne doit pas devenir un substitut à la prière, car parfois nous avons besoin d'un cœur à cœur avec Dieu sans artifice. Nous pourrions avoir besoin de nous entretenir avec le Seigneur avec nos mots, nos émotions propres et nos ressentis. Le chant a la particularité de créer une atmosphère qui nous déconnecte de nous-mêmes, de nos soucis, de notre train-train quotidien pour nous connecter à Dieu. Dans ces conditions, notre cœur est disposé et il devient alors très facile d'échanger avec le Père. Il ne faut jamais commettre l'erreur de croire qu'être chantre vous dispense du fait d'avoir une vie de prière. Pas plus qu'avoir chanté au cours d'un culte, au cours d'une répétition ou un concert ne vous dispense de prier ce jour-là. Petit 3, le chantre et la prière. Si pour vous être chantre, c'est juste aller chaque dimanche au culte, jouer les chœurs et remplir une formalité pour qu'on ne vous accuse pas d'absentéisme dans la chorale, alors vous n'avez peut-être pas besoin d'une vie de prière. Vous avez juste besoin d'apprendre les chants de votre répertoire et vous pointer le dimanche pour les réciter à plein gosier. Si être chantre pour vous, c'est juste apprécier et chanter les compositions des autres à n'en plus finir, si c'est juste un travail artistique qui n'exige que le talent, alors vous n'avez peut-être pas besoin d'une vie de prière, votre talent suffira sans doute. Mais si être chantre est pour vous un office, un ministère qui a pour but de glorifier Dieu, de créer sur la terre par le chant l'atmosphère glorieuse qui règne dans les cieux, si pour vous être chantre, c'est permettre à votre voix de transporter de façon tangible la glorieuse présence de notre Seigneur pour la guérison des nations, si être chantre, c'est pour vous un moyen de prêcher le glorieux évangile de Christ, d'annoncer ses oracles, d'être un instrument prophétique et donner naissance à de chants nouveaux, alors vous aurez besoin de beaucoup plus qu'une assiduité dans la chorale. Vous aurez besoin de beaucoup plus que votre talent, vous aurez besoin d'une vie de prière et de communion profonde avec le Saint-Esprit. Nous entendons très souvent dire que la louange, l'adoration ou le chant sont les seules choses que nous ferons au ciel, là où il n'y aura plus ni prophétie, ni prédication, etc. Certains, à force de répéter cela, ont sans doute perçu que le chant valait beaucoup plus que la prière. Ainsi, pour eux, chanter reviendrait à faire beaucoup plus que prier. Alors ils se demandent pourquoi prier. Autant faire la seule chose qui est et sera admise au ciel pour l'éternité, c'est-à-dire louer, adorer, chanter et célébrer. Il est extrêmement surprenant de se rendre compte que les verbes prier et chanter conjugués à l'impératif apparaissent le même nombre de fois dans les Écritures. L'ordre donné par la Bible en disant prier apparaît 30 fois dans les Écritures. L'ordre donné par la Bible en disant chanter apparaît aussi 30 fois dans les Saintes Écritures, comme si le Seigneur nous recommandait autant de prier que de chanter. Petit 4. Différence entre prier et chanter. Le fait de chanter peut parfois se rapprocher de la prière, car certaines variantes du chant sont des prières exprimées à Dieu. Toutefois, l'idée première que la Bible rattache au terme chanter est la célébration. Dans les Saintes Écritures, chanter, c'est célébrer les louanges du Seigneur, ses hauts faits, ses exploits, ses accomplissements. C'est célébrer ce qu'il est, qui il est, sa dignité, sa seigneurie, son règne. C'est célébrer par la foi ce que nous attendons qu'il fasse. Or, la prière est l'autorisation que les hommes offrent à Dieu d'intervenir légalement et légitimement dans les affaires terrestres. La prière en amont sollicite l'action divine. Le chant en aval célèbre Dieu et lui rend grâce pour son intervention. Petit 5. La communion et la vie de prière du chantre roi David. 73 des 150 psaumes que nous connaissons sont attribués à David pour la simple raison que ceux-ci comportent tous l'expression psaume de David. Le chantre et roi David fut donc un auteur-compositeur prolifique avec 73 compositions. Cependant, une étude approfondie de la vie du chantre David met en lumière certains faits intéressants. En effet, du début de sa vie jusqu'à ses 17 ans, David a composé 20 psaumes. Cette période inclut le moment où il était berger, où il triompha de Goliath et accéda au palais royal comme gendre du roi Saül. De 17 ans à 30 ans, David composa 25 psaumes. Cette période est caractérisée par la fuite permanente de David devant Saül qui cherchait à le faire mourir. Cette phase de la vie de David est aussi marquée par un repli dans le désert, une vie dans une caverne, en 1 Samuel 22, verset 1, et un séjour en exil chez les Philistins, en 1 Samuel 27, verset 1. Étrangement, lorsque David devint roi à 30 ans, de cet âge jusqu'à 65 ans, David n'a composé que 4 psaumes. Tenez-vous bien, ces 4 psaumes ont été composés durant les 2 premières années de son règne, donc de 30 à 32 ans. Ainsi, de 32 à 65 ans, il n'a rien composé en tant que roi. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous apprenons simplement qu'en tant que berger, David avait probablement le temps libre pour entretenir une communion nourrie avec Dieu. Cela a donné naissance à ses 20 premiers psaumes. Ensuite, lorsqu'il était en fuite et pourchassé par Saül, David a sans doute, durant cette période difficile, cherché davantage la face et le secours de son Dieu, puisqu'il vivait retiré dans le désert et au sein d'une caverne. Cette phrase a donné naissance à 25 psaumes. Notons donc que durant ces deux périodes combinées où David cherchait la face de son Dieu et où il n'était pas encore assis sur le trône comme roi, il a écrit au total 45 psaumes, c'est-à-dire plus de la moitié de ses compositions. Or, durant la première phase de sa royauté, de 30 à 65 ans, il n'a écrit que 4 psaumes et uniquement pendant les 2 premières années de son règne. Cela pourrait signifier que David, désormais aux commandes et au pouvoir, n'avait plus le temps pour Dieu, sans doute occupé à gérer les affaires courantes. C'est d'ailleurs durant cette période que David est sujet à quelques errements, notamment la convoitise de la femme d'Uri et l'assassinat de ce dernier. Une période marquée par une froideur spirituelle où de 32 à 65 ans, il ne composa aucun psaume. Pourtant, à sa 65e année d'âge, lorsque son fils Absalom se révolte contre lui, le poussant à s'enfuir hors de Jérusalem, David semble retrouver sa harpe, sa communion et sa plume. Peut-être que dans cette phase difficile, David s'est reconnecté à Dieu pour implorer son aide. La révolte a duré 4 jours, durant lesquels le roi David a composé 14 psaumes. De 32 à 65 ans, il ne compose aucun psaume. En 4 jours, retiré de Jérusalem et des affaires courantes, cherchant la face et le secours de son Dieu, le flot revient et David compose 14 psaumes. Vous ne pouvez pas être un chantre productif si vous n'avez pas de communion nourrie avec Dieu, ni de vie de prière efficace et profonde. Troisième partie. Prière en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Pour être vraiment efficace dans la prière, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Et pour cela, il nous faut apprendre à devenir sensibles à sa merveilleuse présence. La première prière que vous devez apprendre à pratiquer est la prière en langue. C'est la prière la plus basse au niveau dans le groupe des prières dans l'esprit. Mais nous allons voir son utilité. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas sa puissante efficacité. Ils se demandent pourquoi Dieu nous a fait un tel don, car on ne sait pas ce que l'on dit quand on prie en langue. Sachez que tous les dons de Dieu sont utiles pour notre vie spirituelle. Je vous rappelle que vous pouvez prier en langue à partir du moment où vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Regardons les 2 versets de 1 Corinthiens cités plus haut pour découvrir ce qu'ils nous enseignent. Premièrement, seul Dieu nous comprend quand nous prions en langue, pas les hommes et surtout pas le diable. Comme nous parlons à Dieu quand nous parlons en langue, cela veut dire que nous prions, car parler à Dieu, c'est prier. Deuxièmement, nous disons des mystères étant inspirés par le Saint-Esprit. Un mystère, c'est une connaissance d'un plan divin caché pour un temps, qui est seulement révélé à l'initiative du Seigneur au moment opportun qu'il a choisi. Donc en résumé, quand nous prions en langue, nous parlons les plans et les buts de Dieu sur notre vie. En fait, nous prophétisons notre futur en parfaite harmonie avec le Seigneur. Oh, gloire à son nom. Troisièmement, quand nous prions en langue, c'est directement de notre esprit, inspiré par le Saint-Esprit, vers Dieu, et notre âme ne fait pas interférence. Nous nous connectons au monde du Saint-Esprit quand nous prions en langue, nous nous sensibilisons à sa présence en faisant fi du monde naturel. Personnellement, quand je commence à prier, je prie tout le temps en langue avant de dire quoi que ce soit au Seigneur dans un langage compréhensible, car je connais l'importance et l'efficacité de la prière en langue. La prière en langue ne fera pas tout dans votre vie spirituelle, mais c'est une étape qui nous permet de rentrer dans l'esprit, et souvent Dieu va nous parler. C'est vraiment un don précieux que le Seigneur nous a fait et que nous devons utiliser à bon escient dans notre vie. Quatrième partie, requête de prière. Exposer nos requêtes. En Philippiens 4, verset 6, il ne s'agit pas de crier à Dieu dans une détresse particulière, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Le cœur qui cherche du soulagement s'épanche dans le sentiment de l'intérêt que Dieu a pour nous. On rejette sur lui son fardeau, son souci, 1 Pierre 5, verset 7. On remet sa voix sur l'Éternel en se confiant en lui, et lui, il agira, psaume 37, verset 5. On place devant lui tout ce qui peut nous préoccuper, sans lui demander telle ou telle solution, telle ou telle issue, mais en lui faisant confiance. Le résultat n'est pas l'exaucement direct de notre prière, mais la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parler à quelqu'un de nos problèmes nous soulage, mais les exposer à Dieu notre Père donne la paix, la confiance que lui interviendra. Moi je rechercherai Dieu, et devant Dieu je placerai ma cause, disait déjà Job en Job 5, verset 8. Demandez selon sa volonté. 1 Jean 5, versets 14 et 15 nous assure de l'exaucement d'une telle prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Telle était la promesse du Seigneur Jésus lui-même. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Voir Jean 14, versets 13 et 14. Mais comment demander selon sa volonté si nous ne la connaissons pas vraiment? Le Seigneur Jésus nous en donne le secret. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En Jean 15, verset 7. Vivre dans la communion avec lui, être nourri de sa parole et lui obéir nous amène à discerner cette volonté de Dieu. Romains 12, versets 1 et 2 y met à la base diverses conditions. Présenter nos corps en sacrifice vivant, ne pas se conformer à ce siècle, être transformé par le renouvellement de notre entendement. On peut alors discerner quelle est la volonté de Dieu. 1 Jean 3, verset 22 souligne encore « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. » Si nous vivons près du Seigneur, nourris de sa parole, discernant son plan pour notre vie, nous saurons demander selon sa pensée. Mais il peut facilement arriver que nous prenions nos propres désirs pour la volonté de Dieu. Aussi, lorsque nous croyons avoir compris quelle est cette volonté, encore faut-il que la réponse soit conforme à sa parole, que le Saint-Esprit nous en donne la conviction intérieure et que les circonstances la confirment. Ces trois points ont été comparés aux trois phares qu'un avion qui cherche la piste d'atterrissage doit avoir bien aligné devant lui avant de s'y poser. L'Esprit en nous peut nous faire sentir qu'il ne faut pas prier pour une certaine chose, qu'elle ne serait pas dans la ligne de la volonté de Dieu. Par exemple, 1 Jean 5, verset 16. Jacques 4, verset 3 nous avertit que nous pourrions demander mal afin de le dépenser pour nos voluptés. Il ajoute encore, « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches. » Ce fut la prière spécifique de Salomon. Au début de son règne, succédant à un père remarquable, il dit à Dieu, « Donne-moi de la sagesse et de la connaissance, et je sortirai et j'entrerai devant ce peuple. » 2 Chroniques 1, verset 10. N'avons-nous pas souvent fait l'expérience qu'en demandant simplement au Seigneur ce discernement nécessaire dans les circonstances où nous nous trouvions, il nous a répondu selon sa promesse? C'est un exercice continuel qui implique la foi, ne doutant nullement, Jacques 1, verset 6, mais aussi la confiance en la bonté de Dieu qui sera exaucée selon sa toute connaissance. La dépendance enfin qui se soumet à la volonté que notre Père manifeste. Dans l'adversité, on peut se révolter, ne pas accepter cette volonté de Dieu, ou se résigner, cesser de prier, ou encore avoir la victoire en acceptant l'épreuve que le Seigneur permet, dans le sentiment qu'il sait mieux que nous ce qui convient. Priez en toutes choses. Philippiens 4, verset 5. Il s'agit ici d'exposer nos requêtes à Dieu sans demander un exaucement particulier. Le faisons-nous en toutes choses, les petites comme les grandes, les heureuses comme les pénibles, celles qui paraissent aisées comme les difficiles, les secrètes comme les plus connues, détails visibles de la vie extérieure, comme aussi secrets cachés de l'âme, car toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Ayons cette disposition d'esprit qui place devant Dieu tout ce qui survient dans le chemin et le lui remet en confiance. Quand le fardeau a été déposé, la paix est éprouvée comme un premier exaucement, cette paix qui peut garder nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Les réponses aux demandes viendront plus tard, quand est-elle que le Seigneur, selon sa divine sagesse, le voudra pour notre bien. Cinquième partie, prier la parole de Dieu. Notre prière est confrontée à bien des difficultés. J'ai souvent entendu de la bouche des autres, comme de la mienne, « Je n'arrive pas à prier, je ne trouve pas les mots, je ne sais pas si Dieu m'entend, ma prière ne dépasse pas le plafond. » Et nous nous décourageons. Les disciples même avaient cette soif de savoir prier quand ils demandent à Jésus « Apprends-nous à prier. » Et Jésus leur donne une prière, le Notre Père qui est sa prière. Si je veux faire une prière qui plaise à Dieu, je peux prier ce que lui-même m'a donné, prier sa parole. Le Notre Père, les psaumes et d'autres passages peuvent être priés. Dieu a pris soin de placer au beau milieu de sa parole le plus grand livre de prières. On découvre dans ce recueil une grande variété de psaumes. Psaumes de repentance, par exemple psaume 41 verset 5, psaumes de souffrance, voire le psaume 22, psaumes d'innocence, psaume 18, versets 21 à 25, psaume de violence contre les ennemis, psaume 63, 68 et 137, psaume d'intercession, les psaumes 28, versets 9 et psaume 123, parole de supplication, psaume 28, psaume de louange et d'adoration, psaume 96, 148, 150, etc. Le livre des psaumes est inspiré par l'Esprit. Cela nous est confirmé en Actes 1, verset 16, par la phrase « L'Esprit a annoncé par la bouche de David » qui introduit une citation de psaume, psaume 69, verset 26 et 109, verset 8. Jésus lui-même a prié les paroles du psaume 22 sur la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et ce que moi-même je n'ose peut-être pas exprimer lorsque je peux parfois me sentir abandonné de Dieu. Le Père vient m'apprendre à prier en me donnant les psaumes. Il me donne ses mots. Il me propose que sa parole devienne ma prière. Prier la parole, c'est emprunter les mots tels qu'ils sont écrits parce qu'ils sont porteurs de ce qui m'habite. Ainsi, avec David, je peux dire, par exemple, selon les circonstances de ma vie, dans le psaume 25, versets 18 et 20, « Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. » Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. En psaume 25, versets 4 et 5, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dans le psaume 13, verset 6, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton salut. Dans le psaume 63, verset 2, ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche, mon âme a soif de toi. Dans le psaume 139, verset 14, merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Mais c'est aussi laisser cette parole pénétrer en moi, la laisser faire son œuvre en moi et la retourner en prière à Dieu. Par exemple, je te loue de ce que tu m'as rendu libre pour que je connaisse la vraie liberté. Aide-moi à tenir bon, à ne pas me laisser réduire à nouveau en esclavage, selon Galates 5, verset 1. Alors j'expérimente que je ne suis pas seule dans la prière. je suis en communion avec l'Esprit, Romains 8, verset 26, qui intercède en moi, exprime ma prière. En communion avec le Fils, qui reçoit cette prière et se joint à moi pour l'apporter au Père. Il est le médiateur et il intercède pour moi en communion avec le Père qui m'accueille avec amour. Psaume 6, verset 10. Avec cette certitude que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée 3, verset 16, en priant la parole par l'Esprit, je vis dans ce mouvement de recevoir de Dieu la prière que je lui adresse. Je peux alors découvrir une infinité de chemins de prière dans la parole même. Sixième partie, parcours de prière. Bien des chrétiens ont entendu parler de la puissance de la prière, et pourtant leur vie de prière est courte, sporadique et se dessèche très vite dans la monotonie. Les disciples de Jésus avaient dû éprouver les mêmes problèmes pour demander à leur maître « Apprends-nous à prier ». Tant que j'étais un bébé spirituel, ce fut aussi mon cas. Des années de ministère m'ont fait réaliser l'extrême importance d'acquérir de la profondeur et du volume dans mon culte personnel. J'ai appris à me discipliner. Sans guide, il est difficile de se discipliner plus de 10 à 15 minutes, sauf à multiplier les paroles vaines. Mais si l'on suit certains fils conducteurs, certains parcours, on peut prier, vraiment prier des heures durant et entrer dans une communion profonde avec Dieu. C'est alors que nous voyons des exaucements merveilleux qui changent notre existence et celle de ceux qui nous sont chers. Un parcours de prière est une prière suivant un axe, une ligne précise avec un but précis, composé de jalons sur cette ligne qui nous permettra d'allonger nos temps de prière pour atteindre notre objectif de prière. Ces parcours de prière nous permettront d'entrer plus profondément en communion avec Dieu et de nous faire grandir dans la qualité de la prière, dans l'écoute de la voix de Dieu, dans la direction de l'Esprit. Comme exemple, Jésus nous a donné le Notre Père. Chaque étape de cette prière est importante et nous développe en maturité dans la longueur de la persévérance de l'esprit de prière. Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Fin du cours. Question sur le cours. Première question. Dans les moments de prière de remerciement à Dieu, le Seigneur préfère-t-il plus les élans spontanés des cœurs vers Dieu ou la programmation des temps de prière et de louange? Pourquoi? Deuxième question. Dans les moments de prière à Dieu, lorsque le chant est associé à la prière, qu'est-ce que le chant apporte en plus? Expliquez-vous avec des versets bibliques. Qu'est-ce que la prière en langue? Expliquez son fonctionnement à l'aide de 1 Corinthiens 14. Troisième question. Dans les prières de requête faites à Dieu, comment savez-vous que votre inspiration vient du Saint-Esprit et non de la chair? Quelles doivent être vos motivations profondes et votre état de cœur? Quatrième question. Dans la prière avec la parole de Dieu, le fait de prier la parole a-t-il un impact différent par rapport à la prière en général? Par rapport à la prière générale, expliquez-vous avec des versets bibliques. Dans votre vie de prière, que va vous apporter la méthode des parcours de prière ?